Dans la deuxième partie des chapitres 4 à 10, chapitres 8 à 10, ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Chapitre 10. Le chapitre 10 continue, sans interruption, le même sujet. Les versets 1 à 3 présentent ce qu'Israël était maintenant, en contraste avec ce qu'il avait été au commencement. Chapitre 9, verset 10. Israël est une vigne branchue. Il porte du fruit pour lui-même. Dieu avait autrefois trouvé ses délices en Israël comme des raisins dans le désert, quoiqu'ils eussent, sans doute, bien vite abandonné le Dieu vivant pour Baal Péor. Chapitre 9, verset 10. Mais ici, Israël, c'est en particulier des 10 tribus qu'il parle, était devenu une vigne branchue, belle dans son développement, ayant toute l'apparence de force, de puissance et de vitalité, mais sans porter aucun fruit pour Dieu. Tous ses fruits, il les avait portés pour lui-même. Voir chapitre 9, verset 4. La chrétienté offre le même spectacle que cette vigne branchue. Elle nous est montrée sous la figure d'un grand arbre issu d'une petite semence, assez puissant pour offrir un abri aux oiseaux des cieux et de l'ombre aux bêtes des champs, mais où est son fruit pour Dieu? Matthieu 13, verset 32. Éphraïm avait employé toute sa prospérité matérielle à multiplier ses autels. Planté dans une campagne agréable, chapitre 9, verset 13, à quoi a-t-il fait servir la beauté de son pays? À rendre belles ses statues. Verset 1. Aussi Dieu, dans son indignation, abattra tout cet appareil de l'idolâtrie, et maintenant, au moment où le prophète parle, ils diront « Nous n'avons pas de roi ». Nous savons, en effet, qu'avant l'avènement d'Osée, leur dernier roi, une période d'anarchie eut lieu, pendant laquelle le peuple coupable se voyant abandonné de Dieu disait « Un roi, que ferait-il pour nous ?» Verset 3. Versets 4 à 6. Ils prononcent des paroles, ils jurent faussement, et ils concluent une alliance. Cela arriva littéralement à leur dernier roi, Osée. Tout en concluant une alliance avec Shalmanézer, roi d'Assyrie, auquel il prêtait un faux serment, il recherchait traîtreusement l'appui de Sô, roi d'Égypte. De Rois 17, versets 4 à 6. Une scène semblable se renouvela beaucoup plus tard sous Sédécias, roi de Juda, à l'égard du roi de Babylone. De Chroniques 36, verset 13. Aussi le jugement, comme une plante vénéneuse, croîtra dans les sillons de ses champs, détruisant tout espoir de moisson. Shalmanézer se vengea de la trahison d'Osée, monta contre les 10 tribus et assiégea Samarie, leur capitale. Que fait le peuple de Samarie en présence du jugement qu'ils font sur lui? Il tremble pour son veau, pour l'idole de Bethel, lieu que, dans son indignation, le prophète appelle Beth-Aven, comme au chapitre 4, verset 15, 5, verset 8 et 10, verset 8, maison de vanité ou d'iniquité. Un Beth-Aven existait de fait du temps de Josué. Dans la délimitation des frontières assez restreintes de Benjamin, il est mentionné comme un lieu désert, peu éloigné de Bethel. Josué 18, versets 12 et 13. Mais le prophète emploie ce terme que l'on peut aussi traduire « maison d'idole » pour caractériser ce que Bethel, la maison de Dieu, était devenue. C'était à Dan et à Bethel que Jéroboam I avait établi des veaux d'or. 1 Roi 12, verset 29. Bethel était désormais un véritable désert, une maison d'idole, une vanité, une abomination pour le Dieu qui en avait fait sa maison et y avait confirmé solennellement ses promesses de grâce à Jacob. Genèse 28, verset 19 et 35, verset 15. Le veau d'or avait ses camarim, ses sacrificateurs qui tremblaient pour lui. Comme plus tard, lors de l'émeute au sujet de la grande Diane des Éphésiens, si le veau d'or disparaissait, tout l'espoir de leur gain était anéanti. La valeur monétaire de l'idole jouait aussi un rôle dans le deuil du peuple. Son trésor, le témoin de sa prospérité matérielle, en même temps que son Dieu, lui était enlevé pour être porté à Shalmanézer, le roi Jareb de ce jour-là, l'ennemi d'Éphraïm. Samarie est détruite. Son roi a péri comme un fétu sur la face des eaux. Et les hauts lieux d'Aven, le péché d'Israël, seront détruits. L'épine et la ronce monteront sur leurs autels, et ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Versets 7 et 8. Ces versets correspondent à 2 Rois 17, versets 4 à 6. Le prophète nous apprend qu'Osée devait périr après avoir été mis en prison et lié de chaînes par Shalmanézer. Tout cela était proche, mais encore à venir au temps du prophète. L'idolâtrie d'Éphraïm devait disparaître de dessous la face des cieux. L'épine et la ronce devaient recouvrir ses autels. Bethel redevenir le désert de Beth-Aven. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Cependant, comme toujours, la prophétie ne s'arrête pas à une interprétation prochaine, mais nous reporte vers un temps futur où, non plus à la suite de l'idolâtrie, mais après le rejet de Christ, le jugement atteindra ce peuple coupable. C'est ce qu'annonçait le Seigneur aux filles de Jérusalem quand il se rendait au calvaire. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici, des jours viennent dans lesquels on dira « Bienheureuses les stériles et les ventres qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri » voir Osée 9, versets 11 et 14. Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux coteaux « Couvrez-nous » car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ? Luc 23, versets 28 à 31. Tel sera aussi le cri des hommes, depuis les rois jusqu'aux esclaves, sous le sixième sceau de l'Apocalypse, quand ils se cacheront devant la colère de l'agneau. Apocalypse 6, versets 16 et 17. Dans les versets 9 à 15, le prophète enveloppe de nouveau Juda avec Israël dans le même jugement. Giba, comme nous l'avons vu plus haut, chapitre 9, verset 9, parle du péché de Benjamin, mais le prophète fait ressortir que la guerre contre les fils d'iniquité n'avait pas atteint à Giba ceux d'Israël qui se posaient en champion de la justice. Verset 9. Aussi arriverait-il un temps où Dieu châtierait ceux qui avaient été les instruments du châtiment de Benjamin. Juda et les 10 tribus seraient liés pour leurs 2 iniquités. Tous deux, nous dit le prophète, seront asservis au joug des nations. Éphraïm est une génisse dressée, qui aime à fouler le blé. Et j'ai passé sur son beau cou. Je ferai tirer le chariot à Éphraïm, Juda labourera, et Jacob hercera. Ils seront esclaves, chacun d'eux dans des circonstances et à des époques diverses, pour faire lever et prospérer les moissons des étrangers. Ah ! N'était-il pas temps encore de semer en justice pour moissonner selon la piété, de défricher un terrain neuf, de recommencer une vie, produit d'une nouvelle naissance, et de chercher l'Éternel ? Verset 12. Dès qu'Israël suivra cette voie, le Seigneur viendra, comme la pluie, apporter la justice au terrain ainsi préparé. Voir chapitre 6, verset 3. Mais il est impossible qu'une telle bénédiction se produise sans la repentance et la conversion qui cherche l'Éternel. Pourquoi et pour qui Éphraïm et Juda avaient-ils travaillé jusque-là? Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangez le fruit du mensonge. Verset 13. Ainsi, comme toujours en Osée, les images produisent pour ainsi dire les pensées, et nous voyons le labourage signifier à la fois le joug des nations, l'iniquité du peuple et le retour de cœur à l'Éternel. Et bientôt, toutes les forteresses d'Éphraïm seront détruites comme Shalman détruisit Beth-Arbel au jour de la guerre, c'est-à-dire comme Shalmanézer, dont l'armée fit le siège de Samarie, détruisit sans doute d'une manière terrible Beth-Arbel, une de ces forteresses qui n'est nommée que dans ce passage. Enfin, ce chapitre se termine par ces mots prophétiques « À l'aube du jour, le roi d'Israël aura entièrement cessé d'être. » Verset 15. Avec le roi Osée, la royauté sur les 10 tribus va prendre fin, rentrer dans le néant, et il n'en sera plus jamais question.